Bonjour à tous, chers auditeurs. Moi, c'est William. Bienvenue dans ce 48e épisode de Subculture, une histoire de la musique actuelle. Je vais donc tout au long de cette série retracer l'histoire des genres musicaux populaires que l'on connaît aujourd'hui en accent sur les styles d'origine anglo-saxonne. Autant parler de ce que je connais. Bien sûr, ces genres de musique tirent leur base de sonorité du monde entier. J'en parlerai, mais je ferai peut-être une autre série sur l'histoire des musiques d'autres pays pour pouvoir me focaliser un peu plus sur celle-ci. En attendant, voyons d'où viennent le rock, le rap, la techno, la house, comment sont-ils apparus, pourquoi, dans quel contexte, et comment tous ces styles ont influé sur la scène musicale francophone. C'est ce que nous découvrirons dans cette émission. Je ne vais pas pouvoir parler de tout en détail, mais je sais que vous m'excuserez si je semble oublier certaines choses. Ceci est une synthèse se focalisant sur les genres et styles alternatifs, underground, ce que l'on appelle les sous-cultures, d'où le nom de l'émission. Bien sûr, j'aborderai un peu le mainstream, le commercial, mais ce qui m'intéresse le plus ici, ce sont les rebelles de la musique, qu'elles soient révolutionnaires au sens politique du terme, mais aussi purement musicales et techniques. Dans les précédents épisodes, nous avions parlé des années 70. Et à cette époque, dans le rock, il y avait le heavy metal. Et le punk. Et si vous avez écouté ces épisodes, vous savez que ces deux-là ne s'aiment pas bien. Mais il y avait un groupe, à l'époque, qui sut mettre d'accord les deux publics, créant ainsi un pont entre les deux et marquant profondément les deux styles et leurs descendants durablement. Ça, c'est Hawkwind. Et non, c'est pas de ce groupe-là que je parlais. Mais dedans, il y a la personne qui nous intéresse, Ian Fraser Kilmister, plus connu sous le nom de Lemmy Kilmister. Tombé dans le rock en écoutant Chuck Berry, Leo Richards ou Buddy Holly, dans son adolescence, le jeune Lemmy observe le pouvoir de la guitare sur le sexe opposé. Il raconte qu'il a vu Buddy Holly sur scène en 58 et qu'il était là pour draguer. Qu'à cet âge, on a juste envie de baiser. Il a vu Billy Fury, un chanteur de rockabilly anglais, entouré de toutes ses femmes, lui caressant l'entrejambe. Il s'est dit « Ça, c'est le putain de job pour moi ». Pendant les années 60, en même temps d'être rodé sur les tournées de Jimi Hendrix, il joue dans plusieurs groupes, en tant que guitariste, comme The Rocking Vickers. Des groupes psychés comme Sam Gopo. Il apprend à jouer de la basse quand il joint le groupe de space rock Hawkwind en août 71. Le groupe, qui avait une composition rotative, avait parfois jusqu'à 9 personnes sur scène. Comme une ombre restante du mouvement krautrock, Lemmy décrira le groupe dans son autobiographie comme un putain de cauchemar noir. C'est là que Lemmy développera son style de jeu de basse insistant et battant, servant dans Hawkwind de drone hypnotique. Lemmy a su s'intégrer dans le groupe au point de chanter sur leur plus gros succès au Royaume-Uni, Silver Machine, la musique que l'on a entendue au début, et qui a été numéro 3 dans les charts anglais en juillet 72. Mais le reste du groupe était dans les drogues psychédéliques, comme les acides, alors que Lemmy préférait les excitants comme le speed. Cette différence de narcotiques favoris résultera en une différence d'état d'esprit qui entraînera des tensions au sein du groupe. Lemmy racontera que durant son temps à Hawkwind, il est sorti de sa carapace, il s'est mis au devant de la scène, et comme il n'était pas leader du groupe, les autres ont considéré ça comme présomptueux. Et quand il a commencé à écrire ses chansons, là, ça a énervé tout le monde. En mai 75, Lemmy est arrêté à la frontière canadienne pour possession de drogue. Le groupe a payé sa caution, mais c'était juste parce qu'il ne pouvait pas trouver un autre bassiste à temps pour le prochain concert. Mais dès que les charges contre lui ont été abandonnées, Lemmy se libère aussi d'Hawkwind et retourne à Londres ayant volé en passant plein de matos au groupe pour fonder un autre groupe avec lui-même en tant que leader. Le nouveau groupe de Lemmy s'appelle initialement Bastards, mais on lui fait vite comprendre que ce sera très dur de se faire inviter sur Top of the Pops avec ce nom. Il choisit alors le même nom qu'un titre qu'il a écrit de son ancien groupe. Tiré d'une expression états-unienne qui désigne quelqu'un qui ne peut pas s'arrêter de parler et très vite, Motorhead a été écrit par un Lemmy dans un état d'esprit similaire pendant une tournée d'Hawkwind en 74 aux États-Unis. Lemmy racontera qu'il ne se souvient pas de la chronologie exacte de la nuit, mais qu'à 7h du matin, il était toujours debout, hurlant de toutes ses forces. Du rock bruyant, rapide, rauque et inarrêtable. C'était l'image parfaite pour son nouveau projet. La composition initiale était Lemmy à la basse et au chant, Larry Wallace des Pink Fairies à la guitare et Lucas Fox à la batterie. Il voulait que ça soit un peu comme les MC5s, puisque c'était un peu les héros de tout l'underground, et il jetait des éléments de Leo Richards et Hawkwind. Et c'est plus ou moins ce qui en est sorti. C'était un groupe de blues en vrai, même s'il le jouait à 1000 km à l'heure. Mais on reconnaissait le blues, en tout cas pour eux, oui. Au début, ils sont un peu moqués par la presse musicale, mais Lemmy s'en fout. Il se contrefout de savoir ce que Sounds ou Enemy pensaient de lui et son groupe. Contrairement à d'autres qui n'ont que de la gueule et jouent les rockstars, Motorhead est littéralement un groupe de marginaux carburant aux amphétamines qui ne s'intéresse à rien d'autre que faire la fête, l'alcool, la drogue, le sexe ou le rock'n'roll. Et ça se retrouvera dans leur musique. We'll be right back. Cette attitude brute et leur tournée incessante avec des gens comme Blue Oyster Cult, Pink Fairies ou Hawkwind leur offre une petite mais extrêmement fidèle audience au sein des bikers. Sortant leur premier album en 77, ils trouvent aussi des gens comme eux dans le mouvement punk. Lemmy a essayé d'apprendre la basse à Sid Vicious par exemple, et Motorhead a souvent partagé la scène avec les Damned et Adverts. Autant le punk que Motorhead ramenait le rock'n'roll à ses bases, en faisant tourner son moteur à plein régime. Lemmy dira dans Spin Magazine en 2009, comme les punks, on a balayé tous ces trucs fastidieux et prétentieux avec des pantalons pas de def, des caftans et des sandales à la Rick Wakeman des 70s. Si vous n'aviez pas vu à quoi on ressemblait, vous auriez cru qu'on était un groupe de punk. Après quelques temps de malmenage par les labels, après avoir été nommé meilleur pire groupe de l'année par NME, Motorhead forme sa seconde et définitive composition, avec bien sûr toujours Lemmy à la basse et au chant, Fast Eddie Clark à la guitare et Filthy Animal Taylor à la batterie. En septembre 78, ils reprennent et sortent en single le tube de proto-punk Louie Louie, et ça sera leur premier à atteindre les charts en numéro 68. Deuxième album en mars 79, Overkill, démontre la consolidation d'idées, de membres et du son. C'était plus dur, plus rapide et plus dans ta face. Le titre éponyme est leur premier avec une double pédale de grosse caisse. Tyler ne voulait pas l'utiliser dans une chanson avant d'arriver à la maîtriser parfaitement. Il répète alors un rythme simple avec la double pédale pour apprendre à avoir une bonne coordination. Quand Lemmy Eddy rentre dans la salle et Tyler arrête donc de jouer, mais ses compères lui disent « Non, t'arrêtes surtout pas !» Ils ont commencé à jammer dessus et en gros, c'est comme ça qu'ils ont composé Overkill. Overkill deviendra un peu leur credo. Pourquoi être juste bruyant quand on peut être plus bruyant que tout ce qui existe ? Le plus fort et assourdissant qu'ils ont fait, c'est 130 décibels à un concert en 84. Pour comparaison, 140 décibels, c'est le bruit que fait un avion au décollage. 130, c'est le bruit d'une explosion de feu d'artifice, donc un coup, normalement. Maintenant, imaginez ça en constant. Et les normes pour les concerts en France maintenant, c'est 105 décibels maximum. Donc bref, le plafond de la salle s'était mis à se fissurer et le concert a dû être arrêté et évacué par sécurité. Lemmy dit dans Record Mirror en 79, « On est bruyant et brut. C'est la seule façon qu'on sait être. Mais on est aussi très bon pour jouer de nos instruments. On ne met pas nos amplis à fond pour cacher notre manque de talent derrière un mur de bruit. On sait vraiment jouer. C'est un groupe sérieux. » Au même moment, vous le savez en ayant écouté les précédents épisodes, une nouvelle génération de métalleux commence aussi à faire des vagues au Royaume-Uni. La presse appelle ça la nouvelle vague du heavy metal et pense que Motorhead soit rentre dans le mouvement, soit est au moins à la base de sa sonorité. Lemmy n'est pas d'accord. Il aime bien Iron Maiden et Saxon, mais ça s'arrête là. Il pense que Motorhead est arrivé trop tard pour la première vague de métal et trop tôt pour la deuxième. Le groupe ne se case nulle part vraiment. Il insiste sur le fait que Motorhead, c'est pas du heavy metal, parce que c'est un groupe de rock'n'roll. Malgré leur son extrême, ils arrivent quand même à toucher une audience de masse. L'album Overkill arrive en 24e dans les charts de juin 79, pendant que les singles arrivent dans le top 40 et leur permet une seconde invitation sur Top of the Pops. L'ami dira en 2015 dans Rolling Stone que c'était sympa de balancer ça au public, mais que l'émission était ringarde. Il pense que le public a aimé, mais qu'en même temps, quand on leur dit de danser, ils dansent. Donc comment savoir vraiment? Mais en 80, le groupe va sortir un titre qui va mettre tout le monde d'accord. Pour leurs deux enregistrements de 79, Overkill et Bummer, Motorhead bosse avec le producteur d'Exile on Main Street, Jimmy Miller. Mais le groupe trouve que Bummer manquait de leur grincement signature. Lemmy dans Record Mirror en 79. Si vous écoutez Bummer, le son n'a pas ces mêmes bords que quand on l'a fait en live. Je peux pas dire que je suis content de cet album. Les chansons sont bien, mais Jimmy, bien, on a fait l'erreur de lui laisser faire ce qu'il avait envie de faire sans broncher. Oui, Bummer, c'est bien vendu. Mais je doute qu'on travaille encore avec Jimmy. Il a ses propres démons à affronter et ça le rend difficile et pas fiable. À la place, pour leur quatrième album, Motorhead s'associe à Vic Mill, avec qui Lemmy avait travaillé sur l'album live Space Ritual de Hawkwind. Depuis, Mill avait produit Down by the Jetty de Dr. Feelgood. Et le hit top 5 de Tom Robinson, 2468 Motorway. Contrairement à cet héroïnomane de Miller, Mel était moins enclin aux excès du rock'n'roll. Il ne buvait pas, il ne fumait pas, il faisait attention à son alimentation car il était diabétique. Le groupe ne pouvait pas le secouer, il pouvait mourir. Il devait l'écouter. Le duo improbable entre Mel et Motorhead se révélera fructueux. Sa manière douce sut appréhender des conflits internes du groupe. Et c'était aussi un savant du rock'n'roll qui sut créer en studio le même son sale et violent que Motorhead sur scène, mais dans une manière où l'on discerne chaque élément qui a sa propre énergie. La plus grande influence qu'a eu Mel, c'est sur ce qui deviendra le titre éponyme de l'album Ace of Spades. Le groupe répète le morceau au studio Jackson's à Rickmansworth et enregistre une démo instrumentale. Mais il manque l'élément central, ce riff de guitare déchirant. C'est Mel qui leur suggère ce riff. Mel a aussi l'idée d'utiliser des blocs de bois comme élément de la batterie. Et puis vous choisissez quoi croire, mais Lemmy aurait écrit les paroles soit en roulant à 145 km/h, soit sur les toilettes. Les paroles réfèrent uniquement à du jargon de jeux de hasard et d'argent, surtout les dés et les cartes. De la combinaison la moins bien au craps, à la main de poker que le tireur d'élite du Far West Billy Hitchcock avait quand il s'est fait descendre. L'as de pique représente à lui seul la malchance ou la mort, en faisant la plus métal des cartes. Mais Lemmy, lui-même, n'avait jamais envisagé de signification particulière à ses paroles, à part juste qu'elles sonnent cool. Il a juste essayé de caser un maximum de termes de casino dans 3 couplets, et ça s'entend parfois à certaines phrases qui n'ont pas l'air vraiment à leur place dans la chanson. Et malgré le fait que Lemmy avait beaucoup joué, aucune anecdote ou quoi que ce soit de sa propre expérience ne se trouve dans cette chanson. Il dit qu'il n'a pas de bonnes expériences de jeu, il a surtout perdu beaucoup d'argent. En plus, il ne jouait pas aux cartes mais aux machines à sous, car il n'avait pas confiance en l'humain pour les jeux d'argent. Ace of Spades est sorti en single fin octobre 80 et est resté 15e dans les charts UK pour 2 semaines, résultant en 2 apparitions supplémentaires à Top of the Pops. Et le public est devenu dingue sur ce playback de rock bien violent et grinçant. L'album Ace of Spades arrivera alors numéro 4 dans les charts britanniques et sera leur album le plus vendu jusque-là. Mais en un sens, Ace of Spades marquera la fin d'une époque pour le groupe, même si leur album live de 81, No Sleep Till Hammersmith, arrivera dans les charts. Clark part pendant les sessions avec Iron Fist, brisant la composition phare du groupe. Dans la nouvelle vague du heavy metal britannique, Iron Maiden et Def Leppard ont été les groupes qui ont dominé commercialement, surtout aux États-Unis. Mais Motorhead a continué à être un pilier dans la communauté, tournant et sortant des albums en moyenne tous les 2 ans. Lemmy dira qu'ils n'ont pas vendu beaucoup d'albums. Il avait écrit les paroles de Mama pour Ozzy Osbourne en 91 et qu'il s'est fait plus d'argent avec ça qu'avec Two Motorhead, qu'il ne veut pas mourir pauvre, mais qu'il n'est pas riche. Néanmoins, Motorhead a marqué à jamais le rock. Plein de jeunes punks hardcore américains ont commencé en reprenant Ace of Spades. Les punks au Royaume-Uni ont aussi pris inspiration, surtout la troisième vague comme GBH ou Discharge. Et le metal, bien sûr, a été énormément influencé par le son de Motorhead, comme la vitesse et la distorsion du titre Black Metal de Venom. Overkill est aussi souvent cité comme précurseur du thrash metal. Donc sans Motorhead, pas de Metallica, pas de Slayer, Megadeth, Anthrax, Testament, Creator ou tous les autres. Motorhead a su faire un lien entre 2 groupes adversaires, reprenant eux-mêmes dans les 2 genres, comme avec God Save the Queen to the Sandman. Motorhead a aussi transcendé les générations et marqué la pop culture. Jailbait a inspiré la musique du boss final de Final Fantasy VII. Ils apparaissent dans l'émission The Young Ones, jouant Ace of Spades, et cette même chanson devient la bande originale du jeu Tony Hawk Pro Skater 3. Lemmy était content du succès du titre, même s'il n'aurait jamais pensé que c'était un si bon titre. Et il s'est mis à chanter The Eight of Spades au bout d'un moment, et personne à ce jour n'avait remarqué. Lemmy Kilmister est mort le 28 décembre 2015. 4 jours après son 70e anniversaire. L'année après sa mort, Ace of Spades est réapparu dans les charts britanniques à la 13e place, sa place la plus haute. En hommage à cet homme né avant le rock'n'roll, l'ayant découvert et ayant depuis dédié sa vie à la cause. Ace of Spades est peut-être lyricalement juste un truc un peu stupide sans aucun sens, juste un exercice sémantique de caser le plus de mots sur le jeu dans une chanson. Mais ce riff, ce battement, ce grondement de la basse de Lenny, la façon dont il aboie toutes les paroles adrénalise le tout comme rien d'autre. Pour eux, le plaisir c'est de jouer, ce qu'on dit ne fait aucune différence. Subculture, c'est fini pour aujourd'hui. On se retrouve tous les lundis 13h15 et 19h15, le samedi 11h et le dimanche 22h sur Radio FM+, fréquence 91 de la bande FM bien sûr. Sur le site radiofmplus.org via l'onglet Écoutez le direct ou via les applis Radio Line ou les radios associatives. Vous pouvez également retrouver tous les épisodes précédents en podcast sur radiofmplus.org en tapant Subculture dans la barre de recherche du site. Quant à moi, je vous dis à la prochaine et rock on!
But that's the way I like it, baby. I don't wanna live.